Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Après 16 années à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel ne se représentera pas le 26 septembre. Elle n'est pas candidate à sa réélection. Une page se tourne et une nouvelle ère s'ouvre, aussi pleine d'incertitudes, voire d'inquiétudes pour certains, quant à la coalition qui succédera à l'actuelle alliance gouvernementale entre la CDU-CSU et le SPD. Nombreux sont les défis et les enjeux qui seront devant le nouveau ou la nouvelle chancelière après cette incroyable crise du Covid-19. Pour analyser la situation politique actuelle en Allemagne, à un peu plus de 5 mois du scrutin, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Paul Moris, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, où il travaille en particulier sur les questions de politique intérieure allemande et les relations franco-allemandes. Bonjour Monsieur Moris.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord revenir avec vous, Monsieur Moris, sur le retrait d'Angela Merkel de la politique. Son départ annonce aussi la fin d'un certain style, d'une pratique du pouvoir. Que retiendra-t-on, selon vous, de ces 16 années à la tête de la chancellerie allemande ?
Alors effectivement, Angela Merkel a répété il y a à peu près un an qu'elle ne serait pas à nouveau candidate pour les élections fédérales qui auront lieu le 26 septembre. C'est une décision qui n'allait pas forcément de soi puisqu'elle a connu un regain de popularité au moment de la crise du Covid-19 puisque les décisions qui ont été prises lors de la première vague ont été plutôt populaires en Allemagne et il y a eu une grande confiance dans le gouvernement. Mais si on regarde à un peu plus long terme, depuis 2017, Angela Merkel, à la tête du gouvernement, a été un peu contesté. Il y a eu la montée de l'extrême droite, de l'AFD, qui est entrée au Bundestag, au Parlement, et puis des élections régionales à l'est de l'Allemagne, à l'automne 2018, l'ont conduite à quitter la présidence du parti, de la CDU, pour laisser la place à Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a depuis quitté ce poste. Donc, si aujourd'hui Angela Merkel jouit d'une forte popularité, c'est pour deux raisons, principalement le fait qu'elle a plutôt bien géré dans un premier temps la crise du Covid-19, selon la population allemande, et puis peut-être le fait qu'elle parte. Quelqu'un qui quitte le pouvoir va être plus populaire que quelqu'un qui essaie d'y rester. Et vous l'avez souligné, elle ne se représente pas. C'est la première fois en Allemagne qu'un chancelier, en l'occurrence une chancelière sortante, ne se représente pas à sa succession. Alors que retenir de ces 16 années d'Angela Merkel au pouvoir ? C'est peut-être le terme qui revient régulièrement, la stabilité et le pragmatisme. Elle a su s'adapter aux différentes crises, aux différentes difficultés qu'a connues l'Allemagne durant cette période. Il y a eu la crise économique et financière de 2010, il y a eu plus récemment la crise du Covid. Et tout ceci est plutôt dans une logique d'adaptation d'Angela Merkel. Si on voulait retenir quelque chose plutôt de volontaire dans sa politique, il faudrait retenir sa politique d'accueil des réfugiés en 2015. C'est peut-être sur ce point qu'elle a été la plus sincère politiquement, puisqu'elle a réellement voulu accueillir, pour différentes raisons, les réfugiés en Allemagne. Autre chose, sur la question de la stabilité, ce qui est intéressant à noter, sur les 4 mandats d'Angela Merkel, vous l'avez rappelé, elle a gouverné 3 fois dans le cadre d'une grande coalition avec les sociaux-démocrates. C'est-à-dire que jusqu'en 2005, cette grande coalition n'avait été mise en place qu'une seule fois, entre 1966 et 1969. Donc c'est aussi gouverner avec les grands partis de rassemblement et gouverner plutôt au centre. Certains lui reprochent même de s'être éloigné de ses valeurs chrétiennes-démocrates, plutôt conservatrices, pour se social-démocratiser, pour se rapprocher des politiques social-démocrates.
Alors comme vous l'avez dit, elle incarne un peu cette force tranquille, assez rassurante. Les Allemands sont-ils prêts à passer la main et à faire face à ce changement qui est quand même là depuis 16 ans hein. Il y a beaucoup de jeunes qui vont aller voter pour la première fois qui n'ont connu que Angela Merkel.
Oui, alors c'est toujours difficile de quitter quelqu'un qu'on a toujours connu à la tête du pays, qui est joué aussi en plus d'une bonne popularité à l'étranger, donc il donne plutôt une bonne image de l'Allemagne. La journaliste Marion von Rettergem parle même d'une image cool de l'Allemagne sous Angela Merkel. L'Allemagne a cependant changé depuis 2005, elle est très insérée dans le commerce international, elle s'est positionnée pour ses exportations vis-à-vis de la Chine, elle est dans une logique aussi de redéfinition de ses rapports de force avec les États-Unis. L'ère Trump a accéléré des choses qui avaient été déjà mises en œuvre à l'époque de Barack Obama. Donc des changements sur la scène internationale et des changements sur la scène intérieure. C'est-à-dire qu'en 2005, on était à peine 15 ans après la réunification de l'Allemagne. L'Allemagne était au début des années 2000 l'homme malade de l'Europe. L'Allemagne connaissait des difficultés sociales fortes, ce qui avait conduit son prédécesseur, le chancelier Schröder, à mettre en œuvre des réformes sociales très contestées qui lui ont d'ailleurs finalement coûté son poste. Donc peut-être chez les plus jeunes, mais aussi chez certains plus âgés, il y a une volonté de changement et le vote, enfin, en tout cas les intentions de vote prêtées aujourd'hui aux écologistes peuvent être révélateurs de cette volonté de changement. C'est-à-dire de ne plus accorder la confiance seulement aux partis traditionnels. Pour les sociodémocrates, ça fait quelques années que ça dure et pour les chrétiens-démocrates, c'est très flagrant aujourd'hui. Donc c'est révélateur de cette volonté peut-être de changement, de nouvelles coalitions, de nouvelles formes de coalitions, de redéfinition de coalitions. Et les Verts ont su peut-être saisir ce moment pour se positionner comme une alternative dans la continuité d'Angela Merkel, mais une alternative à ce qu'a connu l'Allemagne durant les 7 dernières années.
On reviendra sur les élections et les protagonistes de cette élection, et notamment les Verts. Mais j'aimerais terminer encore en vous posant une petite question par rapport à Angela Merkel. Si elle a échoué sur un point, ce ne serait peut-être pas celui de l'organisation de sa succession.
Alors, Angela Merkel, effectivement, n'a pas du tout organisé sa succession. Elle a été présidente de la CDU jusqu'en 2018, en même tant qu'elle était chancelière, mais elle ne s'est pas beaucoup occupée du parti. Donc le parti, finalement, sa seule structure, c'était le fait de suivre Angela Merkel. Alors, il y a eu cette tentative, au moment où, je vous le rappelais tout à l'heure, elle a été contestée après des élections régionales, de pousser celle qu'on surnomme parfois sa dauphine, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a été élue à la tête du parti en 2018, face à un ancien adversaire d'Angela Merkel,
Friedrich Merz. L'actuel ministre de la Défense, hein, c'est ça.
Exactement, l'actuel ministre de la Défense, qui d'ailleurs était entré au gouvernement pour avoir montré qu'elle pouvait assumer des responsabilités, qu'on appelle en France régalienne, vis-à-vis de l'Allemagne, mais aussi une forme de renouveau, c'est-à-dire qu'une politique étrangère un peu plus orientée vers les partenaires de l'Allemagne. Et puis, il y a eu l'affaire de Thuringe en février de 2020, c'est-à-dire le moment où la section locale de la CDU a favorisé l'élection d'un libéral-démocrate à la tête du Land avec les voix de l'extrême droite de l'AFD. Ce qui a poussé finalement, à terme, Annegret Kramp-Karrenbauer à la démission, puisque elle n'a pas su imposer son autorité sur le parti. C'est Angela Merkel, encore une fois, qui a dû régler ce problème, même à distance, puisqu'elle était en Afrique du Sud, elle a dû faire une conférence de presse à ce sujet. Donc on voit bien qu'elle était omniprésente au sein du parti. Et puis, dans un second temps, l'élection d'Armin Laschet à la tête du parti a été très longue, puisque le congrès devait avoir lieu en avril 2020, puis il a été repoussé en raison de la pandémie jusqu'en janvier 2021. Et Armin Laschet n'est président de la CDU que depuis quelques mois. Donc il n'a pas su encore imposer son autorité sur le parti, même si certains le voient comme l'un des successeurs un peu naturels parmi les différents candidats d'Angela Merkel. Donc on a une situation qui a abouti à ce qui s'est passé ces derniers jours, à une espèce de guerre de succession à la tête de la CDU-CSU, vous rappeliez, hein, le fait qu'il y a un parti chrétien social bavarois un peu différent de la CDU, avec les deux personnalités, Söder et Armin Laschet. Et finalement, Armin Laschet, qui a été choisi comme candidat, est moins populaire. Söder a essayé de jouer sur sa popularité. Et Laschet entre dans la campagne de manière un peu difficile. Il y a encore des divisions au sein du parti. Il y a un problème de popularité. Puis il y a cette espèce de séance médiatique qui l'a montré affaibli vis-à-vis de son partenaire. Donc la succession d'Angela Merkel s'avère un peu difficile et sur les réseaux sociaux a circulé une image très forte d'Angela Merkel qui parlait avec Annalena Baerbock, l'actuelle candidate depuis quelques jours des Verts à la à la chancellerie et certains l'ont interprété comme peut-être finalement la successrice logique et naturelle d'Angela Merkel. Alors c'est un peu exagéré bien entendu puisqu'elles n'appartiennent pas au même parti et que Annalena Baerbock est beaucoup plus dans la logique de son parti écologiste que Angela Merkel n'était dans la logique de la CDU. Elle était beaucoup plus pragmatique. Donc cette question de la succession va aussi montrer une campagne très très ouverte pour les élections fédérales qui auront lieu en septembre.
Alors j'aurais une dernière question sur la CDU. Quelle sera la stratégie de la campagne d'Armin Laschet? Compte-t-il baser sa campagne sur le bilan d'Angela Merkel? Entend-il mener ses propres initiatives? Quelle politique économique, voire européenne, après l'ère Merkel pour la CDU-CSU?
Alors Armin Laschet, c'est un petit peu le slogan qu'a utilisé Pompidou en 1969, c'est le changement dans la continuité. C'est-à-dire une nouvelle personnalité de quelqu'un qui était proche de la chancelière, proche de la ligne de la chancelière, il a toujours été fidèle, et puis il essaie d'imposer un changement qui a du mal à arriver. Armin Laschet, c'est un grand Européen. Il est ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, originaire du nord de la région, proche de la Belgique. Il est responsable pour les affaires culturelles franco-allemandes. Il est vraiment un Européen convaincu, peut-être plus même qu'Angela Merkel. Et puis on revient avec Armin Laschet à quelque chose de plus rassurant vis-à-vis de la France, si on parle des relations franco-allemandes, c'est-à-dire que c'est un catholique rhénan, comme l'était Helmut Kohl, comme l'étaient les dirigeants de la République fédérale d'Allemagne avant la réunification. Alors, sur un plan économique, il va sûrement devoir gérer la question de la crise liée à la crise économique, liée à la crise sanitaire du Covid-19. Alors, il y a eu une décision qui a été finalement prise par le tribunal constitutionnel fédéral qui autorise le président allemand à signer le plan de relance qui a été décidé au niveau européen. Donc, peut-être que ça va lui être profitable, cette décision qui a été prise par Angela Merkel. Il peut s'insérer dans cette continuité en disant « Regardez, l'Europe peut faire du bien à l'Allemagne, il peut nous permettre d'avoir une relance économique. » Son principal problème est qu'il est perçu comme quelqu'un qui n'a pas très bien géré la crise sanitaire dans son ordre. Donc, dans la situation actuelle, de doutes, de contestations des décisions sanitaires, des décisions pour lutter contre la crise sanitaire qui sont prises, peut-être que ça peut lui porter préjudice.
Écoutez, moi je vous propose de faire une petite pause musicale avant de venir sur la candidature des Verts et sur la découverte de cette candidature d'Annalena Baerbock. Alors on va faire une petite pause musicale avec un groupe allemand, The Notwist. C'est un groupe de rock de Bavière. Alors on va écouter ça pendant quelques minutes et on se retrouve avec vous, Paul Maurice, pour la suite de cette émission.
It all was nothing.
Alors, Monsieur Maurice, après cet intermède musical, j'aimerais qu'on continue un peu. On a parlé de la CDU-CSU, donc du Parti conservateur. J'aimerais qu'on en revienne un peu à, pas la surprise, mais à ce parti qui prend de l'ampleur. C'est les Verts, hein, les Grünen en Allemagne. Ils connaissent une forte progression dans les sondages. Même récemment, ils sont passés devant la CDU-CSU d'une façon assez surprenante. Alors, ils sortent également renforcés des dernières élections du mois de mars, hein, dans les Landes de Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg. Pour la première fois de leur histoire, les Verts ont désigné donc une candidature pour la chancellerie et ce sera donc Annalena Baerbock, leur coprésidente, seule femme donc à ce jour candidate au poste de chancelière. Là aussi, Monsieur Maurice, Annalena Baerbock est peu connue du public, notamment en France. Qui est-elle ?
Alors, Annalena Baerbock, c'est une femme qui est plutôt jeune, si on regarde les autres candidats, elle a 40 ans, et puis elle est originaire de l'ancienne Allemagne de l'Est, donc du Brandebourg. Donc c'est une personnalité qui est peut-être moins médiatique que son co-président, Robert Habeck, qui est très médiatique, qui s'exprime très bien, mais qui lui a laissé la place, peut-être parce que les Verts voient la possibilité du moins d'accéder aux responsabilités, mais peut-être, d'accéder à la chancellerie. Annalena Baerbock est connue pour être quelqu'un peut-être de moins médiatique, comme vous le soulignez, même en Allemagne, mais comme quelqu'un de très compétent. Elle connaît très bien les dossiers, elle se positionne sur des sujets un petit peu complexes en Allemagne, les politiques de sécurité et de défense, par exemple, les politiques étrangères, en montrant une forme de pragmatisme par rapport à la ligne de son parti. Et c'est quelqu'un qui pourrait, si on regarde aujourd'hui, bien sûr les choses peuvent évoluer dans la campagne, accéder soit à la chancellerie, ce que souhaitent bien sûr les Verts, soit au poste de vice-chancelier, généralement un poste à responsabilité fort, soit en termes économiques, soit en termes de politique étrangère. Si on regarde l'évolution des Verts des dernières années, vous rappeliez leur fulgurante progression dans les sondages, il y a un récent sondage qui les place à 27%, donc c'est un seul sondage, il faut faire attention, et qui est peut-être aussi lié à l'effet d'annonce de la candidature qui peut créer une forme d'enthousiasme. Il faut voir ça sur le long terme. Après, si on regarde sur le long terme, les Verts ont eu de très bons résultats depuis 2 ou 3 ans. En 2017, ils étaient le dernier parti en termes de nombre de sièges au Bundestag. Et puis, avec les élections européennes de 2019, ils ont connu une forte progression. Et à la fin de l'été 2019, ils talonnaient presque même la CDU. Plusieurs choses peuvent expliquer cela. D'abord, l'affaiblissement de la CDU-CSU. Ils ont pu récupérer une partie des votes des conservateurs, on va dire plutôt de centre-droit. Et ils ont aussi bénéficié d'un effet de vase communicant des électeurs qu'on va appeler communément de gauche, c'est-à-dire les électeurs qui traditionnellement votaient pour les sociaux-démocrates. Ce parti, les sociaux-démocrates, le SPD, étant en difficulté, peut-être que certains électeurs, par pragmatisme, se sont dit on va voter pour le parti de gauche qui correspond peut-être le plus à nos valeurs, qui a le plus de chances de réussir. Et donc ils ont gagné certaines mairies, par exemple, qui étaient traditionnellement des mairies social-démocrates. Vous avez évoqué également la victoire récente dans le Bade-Wurtemberg. Alors, en Bade-Wurtemberg, les Verts gouvernent depuis 2011. Donc, c'est une victoire, certes. Ils gagnent quelques pourcentages de votes, mais ce n'est pas une nouvelle victoire. C'est quelque chose. En Allemagne, on fait souvent confiance quand il y a une bonne gestion politique au personnel politique qui a géré. Donc c'est aussi une confiance envers le ministre-président Winfried Kretschmann. La deuxième chose, en Rhénanie-Palatinat, vous le soulignez, les Verts sont aussi aux responsabilités dans une coalition qu'on appelle Feu tricolore en Allemagne, donc rouge pour les sociaux-démocrates, avec Malu Dreyer, jaune, orange pour les libéraux-démocrates et vert pour le parti écologiste. Et en Rhénanie-Palatinat, ils ne gagnent pas de voix. Ils sont toujours dans une tranche assez basse, autour de 8%. Vous voyez, il y a des spécificités locales. Si on regarde cette progression récente, finalement, c'est une progression qui avait été interrompue, ou en tout cas mise entre parenthèses, durant toute la période coronavirus. En février 2020, les Verts étaient déjà autour de 20-22% dans les sondages. Et puis, la crise arrivant, en mars 2020, ils ont baissé, il y a eu un effet de comme je vous le disais tout à l'heure, de soutien au gouvernement, à la CDU-CSU qui arrivait presque à 40% des scores qu'elle n'avait pas connus dans les sondages depuis plusieurs années. Et puis avec le retour, si j'ose dire, à une situation politique normale, l'approche des élections, la contestation des mesures prises pour lutter contre la pandémie, les Verts retrouvent cette dynamique, finalement, mise entre parenthèses, pendant un an. L'électorat des Verts peut être aussi un électorat qui est fluctuant, d'autant plus que, vous l'avez souligné en introduction, les coalitions sont très ouvertes. Et peut-être que les Allemands, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres peuples européens, ont besoin d'être rassurés sur les mesures qui vont être prises pour lutter contre la crise. Donc si les Verts s'orientaient vers ce qui est très, très peu probable, mais qui est une possibilité, vers une coalition qu'on appelle rouge-rouge-vert, c'est-à-dire sociodémocrate, le parti de gauche radicale leading que les Verts, ça effraierait les électeurs. Il faudra qu'ils se positionnent sur cette question-là. Une coalition avec les sociodémocrates et les libéraux-démocrates pourrait aussi décevoir certains électeurs qui attendent peut-être une stabilité forte dans une coalition avec les chrétiens-démocrates. Il faut aussi voir comment les chrétiens-démocrates se positionneront. Est-ce qu'ils, si les Verts étaient devant, est-ce qu'ils accepteraient d'être partenaire minoritaire d'une coalition, c'est-à-dire sans pouvoir imposer certaines de leurs vues aux Verts avec lesquels ils ont quand même encore de grandes divergences. Ça fonctionne au niveau local, en Bade-Württemberg par exemple, mais au niveau fédéral, peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui vont se poser. J'évoquais les questions de politique étrangère par exemple.
Mais c'est ce qui peut surprendre un petit peu, je dirais, le public français. C'est-à-dire qu'on a un parti vert qui participe à des coalitions qui sont plutôt hétéroclite, hein, y a autant avec la gauche qu'avec la droite. Comment on pourrait différencier les Verts, je dirais, allemands des Verts français qui sont ensemble au Parlement européen? Ils ont des liens, on peut dire que c'est un parti frère, hein, ils participent ils ont des liens. Mais quelle pourrait être vraiment la différence entre ces deux partis, sachant qu'Europe Écologie Les Verts en France est quand même plutôt à gauche, alors que là, on a un parti dont on ne sait pas trop où il se place, s'il est plutôt centriste ou modéré comme l'est Annalena Baerbock.
Alors, si on regarde le programme des Verts allemands, le programme économique et social notamment, on peut constater que ce parti garde quand même son héritage d'un parti de gauche. Par exemple, ils veulent une hausse du salaire minimum de 9,5 euros aujourd'hui à 12 euros, la mise en place, même si c'est un peu plus complexe, d'un salaire universel de base, une hausse des impôts sur les revenus plus élevés, l'abaissement du temps de travail, etc. Donc il y a encore dans le programme des mesures de gauche, ce qui fait, comme vous l'avez rappelé, il se rapproche des autres partis écologistes européens plutôt classés à gauche et siègent ensemble au Parlement européen. Les Verts allemands ont toujours connu en leur sein deux tendances. La tendance qu'on appelle Fundis, fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt issus des mouvements sociaux des années 70, des mouvements environnementaux, des mouvements pacifistes et anti-nucléaires. Et de l'autre côté, les réalos, les réalistes qui sont persuadés qu'il faut faire des concessions pour accéder aux responsabilités et mettre en place les mesures écologistes qui sont le fondement de ce parti. Et la ligne réaliste, depuis les années 1990, a été assez forte, ce qui lui a permis d'accéder aux responsabilités entre 1998 et 2005, dans une coalition entre les Verts et le SPD, avec Gerhard Schröder comme chancelier et Joschka Fischer comme ministre des Affaires étrangères. Et je tiens à rappeler ici que Joschka Fischer, elle est écologiste, issue d'un parti pacifiste, et le premier ministre des Affaires étrangères qui a envoyé la Bundeswehr, l'armée allemande, en mission de combat à l'étranger depuis 1945. Donc il y a une forme de réalisme, même si il a été contesté par sa base. Les Verts sont dans l'opposition depuis 16 ans. Ils ont su, au niveau local, montrer qu'ils n'étaient pas idéologiques. Ils avaient une idéologie, certes, mais ils n'étaient pas idéologiques et ils pouvaient faire des alliances avec différents partis. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France, mais en Allemagne, ça arrive régulièrement. On parlait de la Grande Coalition dans les années 60. Et puis, il y a eu, pendant longtemps, le Parti libéral-démocrate, le FDP, qui a fait alliance tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Peut-être que les Verts, en partie, récupèrent ce rôle central dans la vie politique en pouvant s'associer avec l'un ou l'autre des deux grands Volksparteien, donc les partis populaires, les partis de rassemblement, qui ont gouverné l'Allemagne depuis 1945. Et il montre de plus en plus cette volonté pragmatique d'accéder aux responsabilités, comme ils savent ne pas se positionner encore, peut-être qu'ils feront dans la campagne, sur une coalition possible, et ils ménagent ainsi deux types d'électorats, leur électorat traditionnel, plutôt marqué à gauche, et puis une nouvelle forme d'électorat, alors on ne va pas dire de droite, mais plutôt de centre-droit, un électorat qui est plutôt bourgeois-libéral, qui est un électorat qui est plutôt urbain, qui est plutôt sensible aux questions environnementales, mais qui est aussi sensible aux questions d'investissement, aux questions d'entrepreneuriat, ce que les Verts permettent aussi dans leur programme et ce que les Verts appuient dans leur programme. Donc la question qui se posera, ce sera après les élections, s'ils accèdent aux responsabilités, est-ce qu'ils sauront garder ces deux types d'électorat, est-ce qu'ils sauront garder ce potentiel électoral qu'ils auront acquis au fur et à mesure des années.
Alors j'aimerais terminer cette émission avec un autre sujet, mais qui est lié aussi un peu à la politique étrangère, cette fois-ci, que pourrait avoir une future chancelière verte ou autre. C'est l'affaire avec la crise russe qui risque aussi de déterminer le vote ou tout au moins avoir une influence au cours de la campagne. C'est donc cette affaire Navalny, la relance des divisions sur le gazoduc Nord Stream 2. Alors j'aimerais savoir pourquoi le gazoduc Nord Stream 2 divise autant en Allemagne.
Alors, la question derrière le gazoduc Nord Stream 2, elle est double. C'est la question de la relation avec la Russie et la question de la transition énergétique. Alors, dans la relation avec la Russie, il y a depuis les 90, c'était le cas sous Kohl, ça a été le cas sous Schröder, la volonté d'intégrer la Russie dans l'espace européen. Sur le dossier Nord Stream 2, la chancelière, mais aussi la plupart des responsables gouvernementaux, sociodémocrates ou chrétiens-démocrates, disent c'est un dossier économique, nous ne devons pas le lier à l'affaire Navalny, aux affaires politiques qui sont complètement différentes. L'autre chose, c'est la question de la transition énergétique. Donc l'Allemagne va mettre fin à l'exploitation du charbon pour la production d'électricité. Donc il faut des alternatives, le temps de développer l'éolien ou bien le solaire. Et donc le gaz apparaît comme l'une de ces alternatives économiques possibles. Pour les Verts, sur les deux dossiers, il y a une opposition. C'est-à-dire que d'une part, ils refusent l'achèvement et l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2, qui vient doubler un gazoduc qui existe déjà, Nord Stream 1, pour des raisons politiques, en disant que cela validerait la politique de Vladimir Poutine, lui donnerait les moyens de sa politique, les moyens économiques. L'autre problème, le gaz est une énergie fossile. Le gaz n'est pas une énergie renouvelable et donc ne permettrait pas de mener une véritable politique écologique en Allemagne, politique de transition énergétique. Donc c'est aujourd'hui le seul parti allemand qui s'oppose frontalement à l'achèvement de Nord Stream 2. Les libéraux-démocrates sont pour un moratoire, surtout pour des raisons politiques. Et ça peut poser problème pour des négociations gouvernementales. En janvier, sur ce dossier, dans le quotidien conservateur, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Armin Laschet avait dit que les Verts, sur le dossier, étaient irresponsables en termes écologiques, qu'il fallait aboutir ce gazoduc. Néanmoins, les négociations pour arriver à un gouvernement donne lieu à un contrat gouvernemental entre les différents partis. Et il faut rappeler qu'en 2017, même si ça a échoué au final, les Verts avaient su se mettre d'accord sur les questions migratoires. Donc des questions où ils étaient peut-être encore plus opposés que sur la question de Nord Stream 2. Donc il y a toujours des concessions qui sont faites, d'autant plus que on a des négociations avec les Américains au niveau international qui pourraient finalement aboutir à un compromis même sur ce dossier-là.
Monsieur Maurice, je voulais vous remercier pour tous ces éclairages sur ces élections de la Merkel, sur le gazoduc Nord Stream 2. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales et spécialiste de l'Allemagne. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.
Merci à vous, au revoir.